Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où la peur, l'anxiété et le manque de sens est partout. Il y a quelques années, après une profonde remise en question, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, celle de m'écouter. De ne plus me laisser guider par mes doutes, mes craintes, mais simplement d'écouter mon instinct, d'agir et de faire. Et progressivement, ça a littéralement tout changé. Je suis Teddy Brodley, je suis entrepreneur et coach, et j'ai décidé pour ce deuxième podcast de partir à la rencontre de ceux et de celles qui entreprennent leur vie pour vous aider à les comprendre et à éveiller chez vous l'envie de devenir qui vous êtes vraiment. Bonjour, bienvenue dans Sage Podcast. Aujourd'hui, je reçois Delphine et je vous laisse, sans plus attendre, découvrir notre échange.
Bonjour Delphine, bienvenue dans Entrepreneur Humaniste. Je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau numéro. Comment vas-tu ce matin déjà ?
Bonjour Teddy, merci de m'accueillir déjà. Écoute, je vais très bien. Je suis contente d'être avec toi en ce matin, ensoleillé. Donc, je vais très bien, merci.
Bon, bah super. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, avec plaisir. Donc, je vis en Haute-Savoie depuis 6 ans, mais je ne suis pas originaire de Haute-Savoie. Je suis normande et j'ai vécu 20 ans en Bretagne parce que mariée avec un Breton. Et nous avons eu trois petits Bretons. Voilà, qui sont devenus grands. Donc, je suis une maman de 50 ans avec des grands-enfants qui sont, pour deux d'entre eux, plus à la maison. Et pour un d'entre eux, le petit dernier de 17 ans, 1m90, il est toujours à la maison. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ?
Bah, professionnellement, tu fais quoi ?
Voilà, exactement. Professionnellement, donc, j'exerce aujourd'hui le métier de thérapeute psycho-émotionnel avec deux spécialités. Donc, la première spécialité qui d'ailleurs m'a amenée à être thérapeute, c'est la psychogénéalogie. Et puis, j'ai mis une petite cerise sur mon gâteau puisque je suis certifiée, formée et certifiée aussi en accompagnement du deuil. Donc, j'exerce en cabinet ici en Haute-Savoie. Et puis, en parallèle de ça, j'ai créé une entreprise il y a maintenant 2 ans qui s'appelle Histoire de vie. Et mon combat à travers cette entreprise, c'est de faire en sorte que l'histoire que nous vivons tous quand nous sommes vivants, elle ne se perde pas quand on sera passé de l'autre côté. Voilà. Donc, Histoire de vie, en fait, propose aux vivants de compiler finalement leur histoire de vie à travers une biographie écrite, un téléchargement de photos, vidéos, audio, PDF, et puis une partie témoignage. Pourquoi une partie témoignage ? Parce que en fait, cette biographie, elle va être matérialisée par un médaillon sur lequel est gravé un QR code qui, à la finalité de ce parcours sur Terre, va se fixer sur notre dernière demeure, donc au cimetière, pour en effet que cette histoire soit conservée, qu'elle soit donc transmise, et donc à travers ça, la mémoire honorée. On dit beaucoup que quand quelqu'un part, on va honorer sa mémoire. Moi, je me dis concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour honorer la mémoire ? Histoire de vie, en fait, propose d'honorer la mémoire à travers le fait de finalement célébrer la vie de la personne.
Comment tu es devenu entrepreneur du coup ?
Oh là, là, c'est une longue histoire. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, ni personnelle ni professionnelle, mais merci de me poser la question parce que ça fait tout à fait le lien. J'ai été fonctionnaire au début de ma carrière. J'ai commencé ma carrière comme fonctionnaire territorial. Et j'ai exercé le métier d'assistante de direction dans la territoriale pendant 20 ans. Donc, 20 années zone de confort dans un milieu, 16-17 ans à peu près chez les pompiers, donc en SDIS à Rennes, et ici en Haute-Savoie pendant 4 ans en mairie. Donc, zone de confort parce que tout allait bien. En fait, tout allait très bien. J'avais un métier que j'aimais, une activité opérationnelle derrière, par exemple, chez les pompiers, qui rendait mon métier administratif beaucoup plus vivant qu'un travail administratif de paperasse, qui ne m'aurait pas forcément convenu. D'ailleurs, c'est d'où ma reconversion professionnelle. Donc, tout allait bien. Et puis, au bout de 10 ans, J'ai senti en fait parce que dans les 10 ans, j'avais eu besoin de changer de poste régulièrement. Je sentais en fait que quand j'avais fait le tour de mon poste, il fallait que j'aille découvrir autre chose, apprendre autre chose. Et il se trouve que la fonction publique territoriale ou la fonction publique en général, je ne sais pas, voit la mobilité comme quelque chose de positif. Hein, on ne nous dit pas « vous êtes instable », on nous dit « c'est bien ». Au contraire, aller apprendre, c'est très bien. Donc, j'ai profité de ça. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai fait une formation qui s'appelait « mobilité ». Et moi, j'avais en tête, dans un petit coin de ma tête, hein, ce n'était pas encore très, très installé, en tout cas très clair, l'idée d'une mobilité externe. Et donc, je ne sais plus, 2-3 jours de formation. Puis à la fin, il y avait un exercice qui est fait dans les bilans de compétences qu'on ne peut pas induire. Hein, c'est pas, voilà, on ne peut pas du tout induire le résultat. Et le résultat a été que je ne suis pas quelqu'un de bureau, mais quelqu'un de terrain. Donc, je suis allée voir la formatrice parce que bon, j'ai tout mon corps en fait a réagi à cette phrase qui parlait tellement à mes fibres profondes que je suis allée voir la formatrice et je lui ai dit « écoutez, je suis convaincue de ça en fait ». Et on a mis des mots dessus maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en fais ? Et puis, elle m'a fait une réponse qui ne m'a pas arrangée sur le moment, mais qui était celle qu'il me fallait. C'était « écoutez, votre chemin et votre terrain ». C'est vous qui le connaissez, moi je ne peux pas vous dire pourquoi vous êtes faite. Voilà, donc ça je rappelle, c'était 10 ans dans la fonction publique. Et donc là, je me suis dit, ok, il faut que j'aille voir qui je suis. Donc je suis allée en profondeur un petit peu, interroger mes valeurs, ce qui m'animait, qui m'anime encore aujourd'hui d'ailleurs. Je me suis vite rendu compte que mon terrain c'était l'humain, mais l'humain ça peut être vaste aussi. Et puis, je rappelle que je travaillais chez les pompiers. Donc, pour la petite histoire, les pompiers sont quand même des professionnels qui sont très, très valorisés hein, par la société, par la population, etc. Il se trouve que moi, il y avait une autre catégorie, pas catégorie professionnelle, mais en tout cas un autre métier que je valorisais, moi, beaucoup plus encore, c'était les professionnels du funéraire. Donc, je me suis dit, le matin, qu'est-ce qui me donnerait l'énergie pour me dire je vais passer une super journée ? Et ben, c'était ça. Donc, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les formations. J'ai fait un devis que mon directeur adjoint a validé. Il m'a dit, on vous suit, prenez un congé de formation, etc. Bon. Et puis, à ce moment-là, je me suis donc dit qu'il fallait que je me renseigne quand même un peu plus sur ce milieu. Et donc, je me suis abonnée à un magazine funéraire en ligne. Et j'ai découvert notamment une page de pub où il y avait un QR code qu'on fixait sur les concessions funéraires. Et il se trouve que ça m'a touchée. C'était vraiment une toute petite pub dans un magazine entier. Donc, on pourrait penser que ça passe inaperçu. Et moi, ça a retenu mon attention. Pourquoi ? Parce que en fait, je suis quelqu'un qui fréquente les cimetières et à ce moment-là, je fréquentais déjà les cimetières depuis très longtemps et j'ai mis des mots dessus il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, je vais dans les cimetières à la rencontre des gens, convaincue en fait que ces lieux sont des lieux remplis d'histoire. Les gens qui sont morts ont vécu une vie et donc ils ont une histoire. Et donc, ce QR code, pour moi, était une réponse en fait à une frustration que j'avais en sortant des cimetières, de me dire, mais en fait, leur histoire, qu'est-ce qu'elle est devenue auprès de leurs proches ? Et puis, nous, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir accès à un petit peu plus d'informations ? Voilà, sans plus. Hein. Je rappelle que c'était à 10 ans d'ancienneté. Et puis finalement, le funéraire, de toute façon, j'avais un parcours où j'étais, je suis comme ça d'ailleurs profondément. Je suis quelqu'un qui est fidèle à ce qu'il ressent, à ce que je ressens et à ce qui se joue en moi. Et là, je sentais qu'au fil des jours, au fil des semaines, le funéraire, ça s'étiolait dans mes fibres là, dont je parlais tout à l'heure. Donc finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, on va faire un gros saut en avant puisque j'ai mis 10 ans en fait à cheminer. Et puis, dans ces 10 ans-là, il y a eu ce mouvement géographique. Donc, je suis partie en Haute-Savoie pour le travail de mon mari. Et là, j'ai été recrutée en mairie, donc par voie de mutation. Et étonnamment, ce qui n'était pas sur la fiche de poste, c'est que j'étais responsable du cimetière dans cette petite commune de Haute-Savoie. Pardon. Du coup, voilà, j'ai été travailler dans le funéraire sans être dans les métiers du funéraire comme on peut les imaginer. Moi, j'avais une problématique qui commence à se guérir entre guillemets, mais je l'ai toujours un peu. C'est le rapport au corps mort. Pardon. Et donc, je pense que c'est pour ça que je n'y allais pas, en fait. Et puis, travailler au cimetière, être responsable du cimetière. Donc, j'allais beaucoup dans le cimetière de la commune. J'avais un agent communal qui était du cru, comme on dit. Et donc, il connaissait toutes les histoires des gens qui étaient inhumés. Donc, souvent, il venait au cimetière avec moi. Puis, je disais, allez, Bernard, raconte-moi alors qu'est-ce qui s'est passé pour lui, etc. Ou pour elle. Et donc, il m'expliquait et j'adorais. Donc, j'ai numéroté les concessions, les allées du cimetière, informatisé tout ce cimetière. J'ai, à la demande du maire, rédigé le règlement intérieur du cimetière. Donc, j'ai assisté à des formations sur la législation funéraire, etc. J'étais comme un poisson dans l'eau, je n'ai pas besoin de vous le dire. Voilà. Alors, en parallèle de ça, quand même, j'avais toujours ce sentiment que être derrière un bureau, je n'allais pas tenir longtemps, quoi. Donc là, j'ai continué à chercher. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la psychogénéalogie, c'était quelque chose qui me passionnait et auquel je croyais déjà profondément à l'époque. Donc, j'ai commencé des études de psychologie à distance, donc le soir après le travail. Et puis, à un moment donné, vu la charge de travail et mon côté perfectionniste, pour ne pas dire obsessionnel, à un moment donné, je me suis posée et je me suis dit, OK, tu vas faire 5 ans d'études de psycho, tu pourras être psychologue, mais tu ne seras pas psychogénéalogiste. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à ce rythme-là ou tu bifurques? Donc, à nouveau, je suis allée un peu plus creuser sur Google comment on pouvait faire des études de psychogénéalogie. Et voilà, donc j'ai bifurqué vers une école privée où j'ai fini mon cursus de formation de psycho. J'ai été formée et certifiée en psychogénéalogie. Et comme je le disais, petite cerise sur le gâteau, formée et certifiée en accompagnement du deuil. Voilà, donc ça, hop, première partie qui annonçait une reconversion. Et puis, il a fallu que je bouge à nouveau pour rapprochement géographique de l'école de mon fils. Et je suis arrivée dans une commune, dans une mairie, où au bout de quelques heures, j'ai senti que ça n'irait pas du tout. Et donc, au bout de 6 mois, je leur ai dit que je ne resterais pas. Et au bout d'un an, je suis partie. Et donc, dans ces 6 mois-là dont je parle, j'ai commencé à faire… En fait, j'ai frappé à la porte de la CCI de Haute-Savoie à Annecy. Je ne savais pas si j'étais au bon endroit, donc je leur ai dit, voilà, j'ai vraiment l'envie de voir si je peux lancer une activité en lien avec les cimetières, avec l'histoire de vie des gens, sous forme d'un QR code. Vous rappelez cette histoire de pub dans le magazine. Et donc, la CCI me dit, bien sûr, vous êtes à la bonne porte, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Et c'est là que l'aventure a démarré. J'ai été accompagnée parce que, évidemment, 20 ans de fonctionnariat, tu ne sais pas comment on fait pour lancer une entreprise, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne sais pas par quel bout commencer. Donc, j'ai été accompagnée et j'ai fait donc, tout ce qu'il fallait, études de marché, études de la concurrence, tout ce qui s'ensuit, business plan, machin. Et puis voilà, et donc au bout d'un an dans cette commune où j'étais pas bien, c'était vraiment le bout. Hein. De toute façon, je pense que la vie était faite pour ça, enfin comme ça pour moi. C'était le bout de ce que je pouvais donner en bureau. Donc je terminais mes études de psycho, je lançais mon entreprise, donc j'ai pris une disponibilité de la fonction publique territoriale. Et malgré ma préparation et le fait que je ne quittais pas complètement la fonction publique territoriale en étant dispo, j'ai quand même eu le sentiment de sauter de la falaise, mais je l'ai fait. Et c'est ce qui m'a amené en fait à être entrepreneur. Et être entrepreneur, je le rappelle, sur mon terrain, qui est donc l'humain.
Donc du coup, il n'y a pas un moment, c'est un cheminement, l'entrepreneuriat pour toi. Au final, devenir entrepreneur, voilà, c'est pas aussi simple que ça.
Ouais, c'est très clair.
Dans tout ça, c'est quoi, enfin dans tout ça ou plus largement dans ton parcours, c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué?
Alors le moment qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est un moment négatif pour le coup. Mais dans le négatif, hein, moi j'en suis convaincue, dans toute situation difficile se cache une opportunité. Et vraiment, y a eu tellement de choses belles, positives, que je pourrais en citer des tonnes. Mais le moment clé, ça a vraiment été quand je suis arrivée dans la dernière mairie où j'ai travaillé, qui a été en fait le coup de pied aux fesses, vraiment de la vie, qui me disait, OK, t'as peur, bah maintenant, il faut y aller, quoi. Sinon, tu feras rien. Et du coup, c'est ça qui a été le plus marquant, je dirais, dans le fait de transformer l'essai, tu vois.
Ouais, je vois très bien. Je vois très, très bien. Je vois très, très bien. Bon, pour ceux qui écoutent, globalement, voilà, je vous cache pas que Delphine, je la connais depuis un petit moment. Et c'est pas la première fois que j'entends cette histoire, mais à chaque fois, moi, ça me... Enfin, je sais pas, là, je l'ai encore entendu sous un angle différent et je trouve ça absolument, bref, génial. Donc, j'espère que vous appréciez aussi de voir que c'est pas toujours... Enfin, voilà, tout ce qu'elle a à partager, ça vous parle. S'il y avait un seul conseil... ou quelque chose en tout cas que tu aimerais transmettre aux gens qui nous écoutent, qui pourraient être déjà eux entrepreneurs ou qui pourraient peut-être même sur une voie en cheminement vers l'entrepreneuriat, je pense. Ça serait quoi? Si tu avais une chose à transmettre aux gens qui écoutent, ça serait quoi? Tu voudrais leur faire passer quoi comme message?
Alors, si je dois en faire passer une seule, ça va être chaud, parce que vous avez dû le comprendre déjà, je suis une grande bavarde et la synthèse n'est pas ma spécialité. Mais je vais essayer, voilà, d'être concise. Non, j'ai envie quand même de dire deux choses. La première, et ça va avec, pour moi, l'humanisme, c'est-à-dire, premièrement, en tout cas, ce qui est ressorti, je pense, dans mon parcours, c'est être à l'écoute de soi. C'est aller, finalement, se connaître soi pour savoir où elle est notre place, hein, finalement. Et en psychogénéalogie, hein, on le voit bien, nous, en tant que thérapeute en psychogénéalogie, et je ne le savais pas autant que ça avant d'étudier la psychogénéalogie. Pourtant, j'étais passionnée et convaincue. Mais on a tous, plus ou moins, une problématique de place. Et en fait, pouvoir prendre sa place et savoir où est sa place, c'est vraiment un recentrage sur soi. C'est une introspection. C'est aller à la découverte. Et c'est beau, hein. Il y a des gens à qui ça fait peur. Mais aller à la rencontre de soi, aller vraiment chercher ce qui nous anime, quelles sont nos motivations, nos passions, et ben c'est beau, c'est lumineux, c'est magnifique. Et à travers ça, ce que j'ai appris beaucoup, c'est non pas à ne plus avoir peur, parce que la peur, c'est une émotion. Donc, les émotions, il faut les accueillir. Donc, la peur, elle est légitime. Pour moi, la peur, c'est une émotion. Donc, c'est un fait. Hein, on le constate et on l'accueille. Et moi, j'ai appris, en fait, et j'ai acheté à mon cabinet une armoire qui ferme à clé. Alors, parce que les dossiers des patients doivent être fermés à clé. Mais j'ai pris l'habitude, en fait, quand j'ai une peur, de la mettre dans le placard et de fermer le placard à clé. C'est-à-dire que, autrement dit, je dompte ma peur, mes peurs, parce que j'en ai pas mal. Et c'est aussi ça, finalement, aller se connaître, c'est accueillir aussi les choses qu'on ressent, ces émotions-là, et puis savoir quoi en faire. Première chose. Et deuxième chose, ce que j'ai appris aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas être bon partout et que pour entreprendre, il ne faut pas attendre d'être bon partout. Par contre, il faut savoir bien s'entourer. Donc, c'est le deuxième conseil que je donnerais. C'est de c'est pas évident parce qu'il y a un côté subjectif. Quand il m'a fallu, par exemple, choisir entre plusieurs entreprises de stratégie commerciale et digitale pour faire mon site internet Histoire de vie, par exemple. Bon, bah, moi, j'avais l'habitude, hein, dans mon travail de fonctionnaire, de mettre en concurrence les marchés publics. Tu vois, tu mets en concurrence, tu as des offres, tu fais un appel d'offres, tu as des offres. Ouvre les offres et puis après, bah, tu as des critères de sélection. Donc, je me suis dit, je ne vais pas trop m'éparpiller, je vais mettre trois entreprises en concurrence. Et dans ces choix-là, il y a quand même une partie qui est subjective. Hein. Vous avez des critères et puis le critère prix, bah, par exemple, moi, ça n'a pas été une condition qui a fait que j'ai décidé de prendre telle ou telle entreprise. Il y avait une partie subjective. Donc, c'est pour ça que et aujourd'hui, je le sais, je suis bien entourée et toutes les personnes, que ce soit les juristes, mon agence de com, la CCI de Haute-Savoie. Et puis, tout ça, c'était donc au moment du lancement et un peu en amont. Mais après aussi, hein, j'ai eu la grosse surprise en arrivant sur le marché du funéraire un petit peu, puisque je travaille en lien avec le funéraire pour Histoire de vie. Et puis, ben, par rapport à l'accompagnement du deuil aussi, j'ai fait des belles rencontres, dont toi, Teddy. J'ai fait des belles rencontres. Avant, pendant, après, tout le temps, il faut se dire, moi, mes peurs, elles sont liées aussi à mes incompétences parfois et à mon rapport à l'argent. Par exemple, la comptabilité, c'est un truc de fou. Moi, quand il faut que je fasse ma compta en fin de semaine, j'ai plus la boule au ventre parce que j'ai réussi quand même, tu vois, à progresser. Hein. Le but, c'est quand même aussi d'aller mieux. mais voilà. Et en fait, eh ben, y a des choses qu'on sait pas faire, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas bon, on est moins bon, puis il y a des choses pour lesquelles on excelle et pour lesquelles on est meilleur aussi, enfin voilà. C'est aussi se connaître ça, et c'est aussi avoir de la bienveillance envers soi-même. Donc voilà, je vais arrêter de m'éparpiller, d'être bavarde, mais voilà, les deux conseils, hein, c'est vraiment aller vers soi et savoir s'entourer, pour être synthétique cette fois.
Merci Delphine. Est-ce que tu aurais un livre de chevet que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent?
Alors, elle est marrante ta question parce que, enfin, c'est pas la question qui est marrante du tout, mais...
Non, elle est pas drôle, hein, cette question. Elle est pas plus drôle que ça, Delphine. Pas du tout.
C'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un livre. J'en ai plein. En fait, je suis une grande lectrice. J'adore la littérature. J'aime la langue française, etc. Et j'ai plein de livres. Mais il y en a un vraiment qui, tu sais, comme l'huile qui est dans l'eau, là, qui ressort. Hein, ça fait catalyseur. Il y en a un d'ailleurs que j'ai offert au mariage de mon fils et de ma belle-fille et que je vais offrir au mariage de ma fille l'été prochain avec son mari, son futur mari. Et je me disais, bah, voilà, j'ai l'habitude d'offrir des livres. Qu'est-ce que je vais leur offrir? Bah, en fait, c'est toujours le même qui revient. Et ce livre, c'est « Trois amis en quête de sagesse », écrit par Mathieu Ricard. Donc, c'est écrit trois amis, hein, comme son nom l'indique. Donc, c'est Mathieu Ricard, moine bouddhiste, Christophe André, psychiatre, et Alexandre Jolien, philosophe. Et vraiment, ce livre, pour moi, c'est une Bible. Et quel que soit le moment de la vie où on va le relire, on va le voir différemment et on va en tirer des choses en fonction de là où on en est avec son chemin intérieur.
Merci Delphine pour ce partage. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure? Une phrase de fin?
Ouais.
Enfin, une longue phrase de fin peut-être.
Tu veux une longue phrase de fin? Je sais faire, t'es gentil, c'est un cadeau.
Oui, je sais, je sais.
J'ai été trop courte, trop concise sur le peut-être le livre. Non, le mot de la fin, c'est « je ne regrette rien ». Je vais développer un peu pour te rendre service, tu veux?
Si tu veux, ça me va.
Ouais. Non, je ne regrette rien parce que l'image que je transmets et que j'ai, c'est que j'étais un poisson dans l'eau. Hein. J'ai jamais eu de problème au travail, à part la mairie dont je parle, hein, mais qui a été en fait un cadeau de la vie. J'étais un poisson dans l'eau, mais j'étais dans un bocal, tu sais, les bocaux, ronds. Et puis je tournais comme ça. Alors j'étais un poisson dans l'eau, il n'y a pas de souci. Hein. Puis le poisson, un jour, il s'est rendu compte qu'il y avait un océan. Et donc, il a sauté de son bocal. Puis maintenant, bah, je suis toujours un poisson dans l'eau, mais dans l'océan. Et donc, je crois que j'ai saisi les opportunités. J'ai dépassé mes croyances limitantes, mes peurs. Je pense qu'un poisson qui sort de son bocal rond, l'océan, il y a des dangers, quoi, hein, ça peut faire peur. Et on peut se sentir tout petit dans l'océan. Et en fait, non seulement je regrette rien, mais en plus, il y a des gens qui me disent « putain, mais tu peux être fière de toi ». Et en fait, pas du tout. Ce n'est pas ce sentiment-là que je ressens. Et comme vous le savez maintenant, je suis assez fidèle. Enfin, j'essaye d'être fidèle à ce que je ressens. Ce n'est pas de la fierté que je ressens, c'est de la reconnaissance. Et de la reconnaissance envers moi-même. C'est-à-dire que je suis reconnaissante de m'être écoutée. Pas dans le sens « je m'écoute, j'ai un bobo au doigt de pied, je m'allonge ». Pas du tout, hein, parce que je suis quelqu'un qui lâche rien, mais j'ai écouté en fait ce sentiment dans cette zone de confort, d'inconfort, ce sentiment de ne pas être à ma place, je l'ai écouté. Et pour vivre ce que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire ce bonheur d'être entrepreneur, et ce n'est pas que du bonheur, hein, c'est, le bonheur, c'est la partie visible de l'iceberg. Je rappelle que la partie visible de l'iceberg, c'est la plus petite. La plus grosse partie, c'est la partie immergée. Et donc, ce n'est pas que, c'est pas que facile. Mais pour autant, je ne regrette rien parce que ce que je vis, je ne l'aurais jamais vécu avec cette intensité-là et cet humanisme-là et cette humanité-là si je n'avais pas été à l'écoute de moi-même. Donc, c'est ça mon mot de la fin. C'est je ne regrette rien et merci la vie, mais merci moi-même de m'être écoutée.
Ok, du coup, je rebondis très rapidement sur ce que tu dis. Il y a deux choses qui me viennent en tête, un truc drôle et puis un truc plutôt général. Le truc drôle, c'est Snoop Dogg, qui a une remise de prix, une remise de prix très célèbre. Voilà, c'est auto-remercier, effectivement, pour tout le talent qu'il avait. Alors lui, avec, tu vois, avec beaucoup moins de modestie et de voilà, c'est vraiment, je me remercie d'avoir eu ce talent-là, etc. etc.
Ah, oui. Donc,
et voilà, ouais. Drôle. Et l'autre côté, bah, ça veut, après, c'est si vous écoutez ce podcast-là et si vous êtes sur le chemin de l'entrepreneuriat ou même si vous n'êtes pas sur le chemin de l'entrepreneuriat et que vous écoutez juste ce podcast-là par curiosité, je dirais, bah, là aussi, il y a pas besoin d'entreprendre non plus pour être ce poisson dans l'eau. Je pense que tous à notre place, on a quelque chose aussi à apporter, à faire, à construire. Pour faire en sorte que de vivre bien pour soi, avec et pour les autres. Donc l'entrepreneuriat n'est pas la seule voie possible, il y a plein d'autres voies possibles, effectivement, je pense, que l'entrepreneuriat. Ouais, voilà, je voulais juste rajouter ça, si tu me l'autorises,
mais tu,
ma chère Delphine.
Tu fais bien, c'est tout à fait vrai, je suis tout à fait d'accord.
Bon, bah super. Eh ben merci beaucoup Delphine d'avoir accepté de participer à cet épisode de ce podcast Entrepreneur Humaniste. Et puis, bah, écoute, très belle journée. Et puis, prends soin de toi et à bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci au mouvement des entrepreneurs humanistes de rendre ce podcast possible. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.